je vais parler d'un tout autre point de vue au regard. J'ai beaucoup moins d'expérience que beaucoup d'entre vous dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui, accompagner les personnes au soir de leur vie. Mon métier n'est pas l'accompagnement ou le soin, je suis juste, comme disait le père Jean-François, professeur de philosophie. Alors la philosophie essaye d'écouter ce dont est faite l'expérience des hommes, de le nommer, de le comprendre, d'en chercher, d'en dire. Elle commence par l'étonnement, dit Platon. C'est un peu le fil de ce propos, le fil caché de ce propos. Une remarque, les philosophes ne sont pas bavards sur le grand âge, pas du tout. Ils le sont un peu plus sur l'enfance, beaucoup plus sur la mort, mais ils ont peu parlé de cette expérience pour fondamentale de l'existence humaine qu'est la vieillesse. On peut se demander pourquoi. Peut-être parce que ceux qui la traversent n'en sont plus au stade de l'écriture et des discours, et que ceux qui en sont témoins sont justement assez désarmés dans leur schéma habituel de pensée et convoqués à un autre mode de présence ou de parole. Donc, effectivement, vivre avec des personnes au soir de leur vie nous fait faire l'expérience, on en a tous un peu l'expérience de modification essentielle du rapport à la vie, au temps, à l'action. Et ça renverse tellement nos valeurs habituelles qu'on peut qualifier ça au sens littéral de conversion. Les personnes âgées ont à traverser ces modifications et ceux qui les accompagnent aussi. Et souvent, quand on accompagne, ces modifications sont à la fois une pierre d'achoppement, une difficulté, mais aussi le lieu d'une certaine révélation de l'essentiel. Dans cette pauvreté, cet apparent non-sens parfois de la vie qui s'appauvrit. Et donc c'est ce que nous allons essayer d'explorer ensemble, quelques-unes de ces modifications essentielles du soir de la vie, modifications du temps ou du rapport au temps, rapidement de la présence et aussi de l'expérience de la dignité. Ces modifications essentielles du temps, il y a un philosophe et théologien allemand qui s'appelle Romano Guardini, qui a publié en 1953 un petit livre assez unique en son genre, qui s'appelle « Les âges de la vie ». En réalité, c'est une partie d'un cours qu'il avait donné sur les problèmes fondamentaux de l'éthique. Et dans ce petit livre, il s'intéresse à la relation entre l'identité d'une personne et son passage par les états successifs, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, l'âge mûr et la vieillesse. Alors, il va montrer que chaque phase s'inscrit dans le tout de l'existence, devient constitutive de ce qu'est la personne, mais que cela se fait en vivant chaque phase pour elle-même, avec ses caractéristiques propres. À chaque phase, il y a quelque chose à vivre, il y a des possibilités, il y a des risques, il y a aussi un appel sur le plan moral. Chaque phase est à vivre pour elle-même, ça signifie aussi que la manière habituelle de voir le sommet de l'existence, ou bien au moment où on est au maximum des possibles, la jeunesse, ou bien où on est dans la force de l'âge, l'âge mûr, l'âge adulte, et de voir l'enfance comme une préparation simplement, et la vieillesse comme un déclin, cette manière de voir ne fait pas tout à fait droit à la vérité de l'existence. Pour donner un exemple qui nous déplace, il y a quelques mois, j'ai rencontré une mère dans une réunion de présentation d'établissement scolaire. J'ai rencontré une dame, qui cherchait un établissement pour inscrire sa fille de 13 ans. Cette jeune fille, elle a un cancer au cerveau depuis sa naissance, donc elle est tout le temps en chimio, elle marche avec une canne difficilement, elle est en train de perdre la vue. Donc le pronostic n'est pas très bon. C'est une jeune fille qui dessine merveilleusement alors qu'elle ne voit pas, qui aime beaucoup ses études, qui est passionnée, qui a des amis, qui vit à plein une vie d'adolescente. Et l'adolescente, c'est une période qui est marquée par la préparation de ce qui va venir. Elle est en train d'étudier. Et donc elle vit à plein et à fond ce qu'elle a à vivre à son âge, dans toutes ses dimensions d'apprentissage, de tension, d'attente. C'est une vraie adolescente et ça a du sens. Il y a pas mal de chances qu'elle ne soit jamais adulte. Et l'apprentissage dans lequel elle est engagée ne peut absolument pas s'évaluer en termes d'utilité. Et pourtant, qui pourrait dire que ça n'a pas de sens, et même que ça n'a pas d'impact, d'effectivité, de fécondité. Ce type de rencontre suscite l'émerveillement, et puis aide à voir aussi qu'il y a une vérité ou une bonté de ce qui est à vivre à chaque âge de la vie. L'exemple nous a emmené loin du grand âge, mais voilà, ça nous aide à comprendre un peu ce que Guardini veut dire. Chaque âge de la vie est importante pour la totalité de l'existence. Chaque âge de la vie a une importance en tant que telle. Voilà. Guardini dit « Chaque âge a une effectivité », on reviendra sur celle qu'il reconnaît comme spécifique de la vie. Alors ce temps différent, le grand âge se caractérise en particulier par un changement dans l'expérience du temps, ce qu'on va essayer d'explorer. Le temps n'est plus tendu par l'attente. L'attente est le propre de la jeunesse. Les écoliers attendent les grandes vacances, les jeunes parents attendent un enfant, une équipe professionnelle est tendue vers la réalisation d'un projet. Le soir de la vie n'est plus le temps de l'attente. Et cela peut conduire à une certaine accélération du temps. L'attente, en effet, étire le temps. Et la monotonie raccourcit le temps. Les jours, les saisons, les années se succèdent. On a souvent conscience de ce qui finit. Ça peut s'accompagner d'une certaine lassitude et aussi des coordonnées, mais aussi l'expérience, d'une certaine perte d'importance des choses, non pas dans la responsabilité, mais dans l'implication du sentiment. C'est que le temps semble passer de plus en plus vite, mais en même temps, le temps des choses semble tout prend beaucoup plus de temps. Les actes de la vie quotidienne, particuliers pour tout ce que les personnes peuvent encore faire elles-mêmes, peuvent remplir presque tout le temps. Les actions qui semblaient simples, qui étaient machinales auparavant, qu'on comptait même pas dans son emploi du temps tellement c'était rapide, elles demandent maintenant beaucoup d'efforts, de temps et d'attention. Et il peut y avoir dans ces actes une grande densité de présence. L'expérience de la finitude est constante, les forces diminuent, on a vu progressivement ou brutalement. Parfois les personnes disent qu'elles ont l'impression que se déglingue de partout. On sait que le temps qui reste est court par rapport au temps vécu. Le conjoint, les frères et sœurs, les amis avec qui on a partagé sa vie décèdent les uns après les autres. Ça ravive le sentiment que tout passe, que les époques, que les générations passent et que l'on passera aussi. Ça aussi, ça entraîne existentiellement une forme de détachement qui n'est pas du tout évident, mais auquel la vie elle-même conduit. Et en même temps que ce détachement, que ce recul qui peut s'installer par rapport aux événements sur lesquels on sait qu'on n'a plus prise, il y a justement, paradoxalement, une grande densité de l'instant, de la relation, de la présence. Je voudrais revenir sur cette question de la finitude. La finitude, c'est pas simplement que le fait que les choses, la vie, aient une fin. C'est aussi le fait que dans ce qui est fini, limité, petit, peut se vivre une plénitude de sens. Et ça, c'est ce qui frappe quand on écoute les témoignages des personnes qui accompagnent d'autres hors de leur vie. Il peut y avoir une triste, parfois même un scandale ou une révolte par rapport à la finitude de l'existence. Mais justement, notre finitude veut dire aussi que nous ne sommes pas faits pour ce que les philosophes appellent ça un mauvais infini. Le mauvais infini, c'est l'infini des choses dire, qui n'ont pas de fin naturelle. C'est l'infini d'une conception infinie de nos besoins, une conception infinie de nos désirs, une conception infinie d'un temps qui ne s'arrête jamais. Ce mauvais infini de l'absence de limites. Et dans cette perspective, la finitude est toujours négative. Ça veut dire qu'une fête, c'est toujours triste parce qu'il y aura une fin. Une rencontre, c'est toujours triste parce qu'on va se séparer. La vie elle-même est absurde puis se termine par la mort. Et ce qui est bouleversant, quand on écoute le témoignage de ceux qui accompagnent le soir de la vie, c'est qu'il y a une espèce d'évidence que c'est faux. Qu'il y a des choses petites, finies, qui procurent un accomplissement. Même si l'approche du soir de la vie demande de se détacher de pans entiers de projets inachevés, de désirs inaccomplis. On peut faire l'expérience que des petites choses, justement le lieu d'un achèvement ou d'un accomplissement. Il y a un beau livre qui est lié en 2023, de Régis Debray et Claude Grange, je pense que vous l'avez presque lu, ou vu le film qui vient de sortir, qui met en scène ce livre, avec de très bons acteurs. Il y a des exemples bouleversants, je vais en partager deux.
Qu'est-ce qu'il y a lu
ouais. Vous avez vu le film? Ah pardon, Le Dernier Souffle.
Oui,
Le Dernier Souffle. D'accord. Je l'ai apporté s'il y en a qui veulent regarder. Donc il y a cette jeune fille qui a un cancer du sang, métastatique de partout, en phase terminale. On lui avait pas dit la vérité sur son état et elle se retrouve sans avoir été prévenue. On la livre, entre guillemets, dans un service de soins palliatifs. Elle croyait qu'elle allait en oncologie. Donc vous imaginez le choc. Et elle a cette phrase étonnante dans sa colère en arrivant. C'est que des histoires vraies. Vous m'avez volé ma mort. Elle ne se révolte pas contre le fait qu'elle va mourir, contre sa finitude. Elle se révolte contre le fait qu'elle a l'impression qu'elle n'aura plus le temps de vivre sa mort, la sienne, à travers des choses certainement très limitées, finies, déterminées, mais qu'elle voulait faire. Il y a aussi une histoire qui fait un sourire, c'est un fils qui fait des pieds et des mains pour faire sortir sa mère de l'hôpital parce qu'elle est bretonne et elle est par hasard hospitalisée en région parisienne. Et il y a une chose qu'elle veut absolument faire avant de mourir, c'est retourner en Bretagne pour manger des huîtres fines de clair et boire du vin blanc et des tartines de Barcelée en Bretagne. Et donc il fait tout ce qu'il peut. Et effectivement, le service reçoit une semaine après une carte postale avec des huîtres du fils qui remercie et qui raconte qu'elle a été heureuse de manger ses huîtres fines d'éclair et qu'elle s'est paisiblement éteinte quelques jours. Vous pensez peut-être vous-même à des visages, des moments qui ressemblent à ça. Il y a un philosophe important qui s'appelle Paul Ricoeur, qui est décédé en 2005, qui a écrit en 1996, il avait alors 83 ans, une méditation sur la mort, en fait sur sa propre mort. Le texte est resté à l'état de brouillon, il a été publié après son décès. Le livre s'appelle « Vivant jusqu'à la mort », un peu difficile parce que c'est de brouillon. Et sur la pochette qui contenait ses notes, il avait écrit comme titre « Jusqu'à la mort, point, du deuil et de la gaieté ». Et dans cette méditation sur sa propre mort, il convoque justement le témoignage de médecins en soins palliatifs. On n'en parlait pas beaucoup à l'époque, 95. Alors je cite ce qu'il dit, ce qu'il écrit. Ils disent, donc les médecins, qu'il n'est pas facile de mourir. Ils disent deux ou trois choses qui me sont très précieuses. D'abord ceci, tant qu'ils sont lucides, les malades en train de mourir ne se perçoivent pas comme bientôt morts, mais comme encore vivants. Encore vivants, voilà le mot important. Ensuite, ils disent encore ceci, ceux qui occupent la capacité de penser encore préservée, ce n'est pas le souci de ce qu'il y a après la mort, mais la mobilisation des ressources les plus profondes de la vie à s'affirmer encore. Les ressources les plus profondes de la vie, qu'est-ce à dire ? L'émergence de l'essentiel dans la trame même du temps de l'agonie. L'essentiel, pour l'instant, il n'est pas nommé. Un peu plus loin, Ricoeur convoque un autre témoignage pour approcher de cette expérience du soir de la vie qu'il cherche à approcher, pas simplement, enfin, à la première personne. Qu'est-ce que ça fait ? Ce témoignage, c'est celui d'un écrivain espagnol, alors je ne parle pas espagnol, donc je le prononce à la française, Georges Semprin, qui raconte lui-même, dans l'écriture et la vie, ou la vie, pardon, comment il a accompagné la mort de Maurice Halbwachs, un sociologue connu, qui était son ami, au camp de Buchenwald en 1944. L'écrivain espagnol écrit « Il souriait, mourant, son regard sur moi, fraternel. J'avais pris la main de Halbwachs, qui n'avait pas eu la force d'ouvrir les yeux. J'avais senti seulement une réponse de ses doigts, une pression légère, message presque imperceptible. » Et Ricoeur commente « Et ici, le témoignage sur l'affleurement de l'essentiel dans les yeux. » Nouveau le texte de l'écrivain. « Une flamme de dignité, d'humanité vaincue mais inentamée. La lueur immortelle d'un regard qui constate l'approche de la mort, qui sait à quoi s'en tenir, qui en a fait le tour, qui en mesure face à face les risques et les enjeux, librement, souverainement. » Ricoeur reprend le commentaire. « Mais il fallait encore aider l'agonisant. Par une parole non médicale, non confessionnelle, poétique et en ce sens proche de l'essentiel. » Le texte reprend. « Alors dans une panique soudaine, ignorant si je puis invoquer quelque dieu pour accompagner Maurice Halbwachs, conscient de la nécessité d'une prière, pourtant, la gorge serrée, je dis à haute voix, essayant de maîtriser celle-ci, de la timbrer comme il faut, quelques vers de Baudelaire. C'est la seule chose qui me vienne à l'esprit. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. » Le regard de Halbwachs devient moins flou, semble s'étonner. Je continue de réciter. Quand j'en arrive à « Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons », un mince frémissement s'esquisse sur les lèvres de Maurice Halbwachs. Il sourit, mourant, son regard sur moi, fraternel. Quelques vers de Baudelaire en suffisent. C'est étonnant que si peu suffisent pour porter, accompagner quelque chose de si essentiel. Un peu plus loin, Ricoeur écrit « Je reviens sur la qualité du regard et surtout du geste d'accompagnement. Il marque la fusion dans l'herméneutique de la médecine des soins palliatifs. » L'herméneutique, c'est la manière de comprendre les choses. « La fusion entre la compréhension et l'amitié. La compréhension se porte vers le vivre finissant et sous recours à l'essentiel. » L'écrivain avait compris ça, de celui qui était en train de mourir. « Et l'amitié aide non seulement l'agonisant, mais la compréhension elle-même. » Alors peut-être que ce qui fait l'importance de ces choses finies, qui semblent dérisoires par rapport à l'importance de cette heure, les huîtres, le pot de jonquilles que vous avez apporté dans la chambre, un souvenir qu'on évoque ensemble, ce qui fait l'importance de ces choses, c'est le fait qu'elles portent le sceau de l'amitié et de la compréhension. Celui qui accompagne ainsi manifeste avec délicatesse qu'il comprend qu'il s'agit du temps de la fin, qu'il comprend un peu ce que ça peut signifier, et il a la délicatesse et la distance propre à l'amitié, de l'exprimer par la médiation d'un signe simple mais signifiant et qui est source de joie et d'une joie partagée. Et ce signe dont on vient de parler, que ce soit la poésie ou les huîtres, manifeste justement la valeur et la bonté de la vie, pas une vie qu'on regrette en disant qu'elle est finie, mais une vie qu'il vaut le coup de vivre. Alors accompagner, si entrer avec personne dans le temps différent qui est le leur. Et donc ça requiert d'accepter d'entrer avec les personnes au soir de leur vie, dans ce temps différent. de ne pas plaquer notre propre échelle de valeur sur ce qui est à faire, sur ce qui donne du sens. C'est difficile, car ceux qui accompagnent sont eux-mêmes à un autre âge de leur vie, à une autre étape de leur vie, à un âge de la vie où l'effectivité de la vie est une autre, et où il est bon que ce soit ainsi. Guardini dit ainsi, « Il y a deux sortes d'efficacité, d'effectivité. » C'est la traduction, en tout cas, c'est pas, ça ne veut pas dire utile, c'est efficacité au sens fort, ce qui produit un effet. Deux sortes d'efficacité, celle du dynamisme direct, de la force qui maîtrise et qui organise, et celle de l'esprit, de la vérité, du bien. Chez l'homme mûr, ces deux formes d'efficacité s'équilibrent en quelque sorte. Il doit produire, lutter, faire triompher, c'est son rôle. Mais il doit produire l'authentique, lutter pour la bonne cause, faire triompher le bien. À mesure que l'homme vieillit, son dynamisme s'affaiblit. Mais à mesure que l'homme surmonte ses obstacles intérieurs, il devient en quelque sorte transparent au sens profond des choses. Il n'est plus actif, mais il rayonne. Il ne s'attaque pas aux difficultés. Il ne les maîtrise pas, ne les domine pas. Mais il laisse transparaître l'esprit. Et il lui donne, par son désintéressement, une efficacité particulière. Il y a l'efficacité de celui qui produit, qui organise, qui lutte. Et il y a l'efficacité qui vient de cette transparence au sens profond des choses, qui est propre, d'après Guardini, l'efficacité au soir de la vie. Le problème, c'est que les enfants des personnes au soir de leur vie sont souvent dans la période précédente, où ce sont eux qui doivent à la fois organiser pour les autres, tout en étant une référence morale, et ils ont aussi le souvenir pas si éloigné où leurs parents assumaient ce rôle, et ce n'est pas facile de consentir à cet appauvrissement des parents et à ce qu'ils donnent autrement. Ils sont encore parents, ils donnent encore, mais autrement. Ça suppose pour ceux qui accompagnent aussi un chemin de dépouillement pour entrer dans ce temps différent où affleure l'essentiel, cet essentiel qui est un don dans la relation, dans la présence. Notre livre, si vous voulez lire, le poète Christian Bobin, il a consacré un beau texte qui s'appelle « La présence pure » à son père atteint de la maladie d'Alzheimer qui était dans une maison de long séjour. Il écrit par exemple au sujet des visites qu'il fait « Il me faut à chaque fois quelques minutes pour aller à son pas et le rejoindre dans cette lenteur propre au début et à la fin de la vie. » On devait dire que cet ajustement au rythme du pas est le symbole de bien d'autres choses. Alors avant de... Ça va, vous ne dormez pas. Avant de revenir à la question de la présence et de la dignité beaucoup plus rapidement, peut-être il faut évoquer certaines des difficultés du soir de la vie en lien avec ce rapport au temps qui change. Il faudrait parler, vous pourriez le faire, de l'impatience qu'on rencontre parfois, de l'angoisse, d'exigences qui peuvent devenir tyranniques, qui procèdent très souvent de l'anxiété. J'ai aucune compétence pour parler de ce qui relève de la psychologie, voire des pathologies spécifiques du grand âge, en particulier de la manière dont des troubles anxieux spécifiques peuvent se manifester. Je vais plutôt me risquer sur un autre terrain, même s'il est un peu glissant, mais une des particularités du petit livre de Guardini est d'oser parler du versant moral, de ce qui caractérise les différents âges de la vie. En effet, en chaque phase et en chaque transition entre les phases, il y a une épreuve, un appel, un consentement à donner à un nouveau mode d'être. Et c'est vrai aussi de la dernière phase, mais c'est difficile. Et Guardini nomme ainsi certaines tentations inhérentes à la crise du détachement, le nom qu'il y donne, qui est celle de l'entrée dans le grand âge ou dans le soir de la vie. Il parle, par exemple, de la tentation du déni, du refus de vieillir, qui peut se traduire dans le fait de faire semblant d'être jeune encore. Et quand on vit dans une époque qui confond plénitude de vie et jeunesse, la tentation est encore plus forte. Il parle d'autre part de l'attitude de celui qui, je cite, « capitule devant le fait qu'il vieillit, fait bon marché de sa vie écoulée, qui lâche complètement prise, moralement aussi, et qui se cramponne à ce qui lui reste à vivre. » Cette attitude, dit Guardini, écrit en 1953, est à l'origine des graves phénomènes du matérialisme sénile qui accorde une importance capitale aux choses tangibles. On voit se développer l'entêtement, le besoin de se faire valoir, de tyranniser l'entourage et de le tourmenter pour se donner le sentiment d'être encore quelque chose. On continue. Les personnages du sorcier et de la sorcière sont l'interprétation mythique de ce phénomène. Le grand défi, c'est d'accepter sa vieillesse, d'accepter sa fin, la fin, sans être vaincu par elle et sans la déprécier avec indifférence ou cynisme. Et c'est là qu'apparaît, dans ce processus de consentement, l'homme ou la femme sage. Je cite à nouveau, « On peut le caractériser ainsi, il connaît sa fin et il l'accepte. Cela ne veut pas dire qu'il s'en réjouisse. Cela veut dire qu'il se prépare de plus en plus loyalement à l'inéluctable. La fin de la vie est encore vie, des valeurs s'y réalisent, qui ne peuvent se réaliser que là. Si on accepte cette fin, le comportement acquiert un calme et au sens existentiel, parenthèse, qui n'est pas nécessairement psychologique, une sérénité. » Coordonnez toujours. Lorsqu'on demanda au cardinal Charles Borromée ce qu'il ferait s'il savait devoir mourir une heure plus tard, il répondit « Je ferais particulièrement bien ce que je fais maintenant. » Coordonnez continue. « Une qualité est alors particulièrement importante. Dominer sa jalousie envers les jeunes, sa rancœur à l'égard de ce qui, historiquement, est nouveau, sa joie mauvaise devant les défauts et les échecs de ce qui est actuel. Tout cela peut être bien difficile et demander du temps, et pourtant c'est la clé de la paix intérieure et d'une existence où on peut donner et recevoir jusqu'au bout. Alors comment accompagner un proche, un patient, dans ce travail de consentement ? On sent bien en effet que, comme à tout âge de la vie, nous avons une responsabilité les uns pour les autres. Il y a une responsabilité sociale, à grande échelle aussi à petite échelle, et une responsabilité personnelle, une possibilité personnelle d'accompagner ces détachements successifs, peut-être déjà dans l'amitié, qui est faite de fidélité et d'estime, de joie de la présence de l'autre et de joie du partage. Et quand d'autres consentent pour nous, ça aide à consentir aussi. Cette amitié qui demeure atteste le sens de ce temps qui est encore à vivre. Nous avons regardé le soir de la vie sous l'angle du temps beaucoup plus rapidement. Donc je voudrais évoquer l'accompagnement des personnes au soir de leur vie sous deux autres aspects, la présence et la dignité. La présence, tout d'abord, au soir de la vie, la maladie peut s'installer, la douleur peut devenir une compagne quotidienne. Il faut consentir à une dépendance qui croît. L'expérience du corps et de la place du corps dans la relation se modifie. Quand on accompagne, il faut aider concrètement, il faut tenir et soutenir, il faut toucher, il faut aider dans des choses très intimes. Il faut parfois être témoin du corps dénudé. Mais étonnamment, vous en avez tous fait l'expérience, la pauvreté et la vulnérabilité font disparaître l'indécence. Et cela surtout quand la personne elle-même consent à cet appauvrissement et même aide l'accompagnant à aider. Le service rendu pour des besoins qui sont ceux du corps a dans cette période de faiblesse du soir de la vie une valeur éminemment personnelle. Et je me souviens d'une personne que beaucoup d'entre vous connaissent, qui j'ai eu la chance de rendre souvent visite dans les dernières semaines de sa vie. Faisant le même métier, ou plutôt j'apprenais le sien, c'est Yvette. Elle est décédée d'un cancer du poumon il y a bientôt 10 ans. Et j'ai deux souvenirs dans la tête qui se superposent au chevet de son lit. Une conversation passionnée sur l'acte libre de Bergson, elle m'a envoyé chercher un livre dans sa bibliothèque. Et puis un autre moment où j'essayais de lui donner de l'eau gélifiée dans une petite cuillère pour calmer sa soif. Je ne sais pas à quel moment le contenu de la relation était le plus profond et le plus spirituel. Enfin, si je sais, c'est quand j'essayais tant bien que mal de l'aider à boire. Et il me semble qu'il y avait là le don d'une présence mutuelle plus grande, plus immédiate, plus vraie. Et en fait, j'avais une reconnaissance très grande d'avoir la possibilité d'être là. Et je pense que c'est elle qui me faisait le don de cette présence et de pouvoir lui rendre ce service. Tout à l'heure, on parlait de différents types d'efficacité. Avoir besoin d'une cuillère d'eau gélifiée peut avoir un impact très grand sur le monde, en tout cas sur notre existence. Alors que dire de la présence et de la relation quand les facultés cognitives sont progressivement altérées ? La conversation est difficile, voire impossible. On est souvent témoin d'échanges difficiles, de situations douloureuses où des proches cherchent à entrer en relation avec une personne atteinte de troubles cognitifs et puis ils racontent les dernières nouvelles, leurs projets, les enfants qui viennent de naître. Ils partagent leur vie actuelle et la personne est complètement perdue. Et alors là, on se désole, on ne sait plus comment établir la relation. Parfois, les proches ont l'impression que la personne ne les connaît plus parce qu'elle ne sait plus rien d'eux, même plus leur nom. Et pourtant, quand ils sont arrivés, il y a eu ce sourire, il y a eu la reconnaissance d'une présence aimée, il y a une émotion qui sur intacte de la mémoire sans aucune médiation cognitive ou discursive. Il y a eu aussi peut-être ce sourire à l'évocation de certaines choses anciennes, d'une musique. Il y a souvent des chemins, vous savez, pour rejoindre la personne, qui lui est très personnelle, son identité. Ce ne sont pas nos chemins habituels, ce sont très peu des chemins qui passent par le langage assez vite. Simplement, dans ce type de relation, ce qui est assez bouleversant, c'est qu'on a l'impression qu'on a la responsabilité de l'identité de la personne, de sa conscience d'elle-même, de l'accès de l'autre à lui-même. Donc c'est très important que ceux qui accompagnent puissent connaître un peu ce qui a fait la vie de la personne pour trouver les moyens qui vont lui permettre de lui donner accès à elle-même. La personne a besoin des autres pour être elle-même. C'est vrai aussi pour sa vie spirituelle. Là, je passe. La dignité, quelques minutes, presque au bout. La responsabilité qu'on a évoquée pour parler d'identité, on la retrouve aussi pour la dignité. On est socialement et personnellement responsable de la dignité des personnes au soir de leur vie. La dignité, c'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se reconnaît parce qu'elle préexiste. Et là aussi, il s'agit d'apprendre à voir par-dessus ça. Voilà. On fait parler de volonté. On y reviendra dans les champs s'il faut. Je voudrais simplement terminer par une remarque. Dans le décalogue, il n'est pas dit « Prends soin de ton père et de ta mère ». Il est dit « Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent les jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu ». C'est beau d'honorer. Et dit saint Paul, c'est le premier commandement auquel soit attachée une promesse, qui est une promesse de vie. Et donc c'est avec ça que je voulais terminer ces quelques mots, et je souhaite la conclusion. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Marine pour cette réflexion qui est aussi enracinée dans l'expérience de Paul Ricoeur, votre expérience aussi. Voilà, nous avons toujours besoin, à partir de l'expérience, d'aller au fond des choses, de voir plus loin, plus profond. C'est justement le travail de la philosophie. Merci beaucoup. Alors nous pouvons prendre 10 minutes de pause et revenir ici à 10h35. Pour l'intervention de Jean-Guilhem Seri. Voilà, merci. Essayons d'être ponctuels pour pouvoir bien tenir l'horaire de la matinée.